VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 26 octobre 2021. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir à tous. Au Soudan, les opposants au coup d'État manifestent à Khartoum. Le chef de l'armée, auteur du coup de force, s'est exprimé pour la première fois et en exclusivité sur VOA Afrique, la réaction de l'ambassadeur du Soudan aux États-Unis. En Guinée, la junte nomme 4 nouveaux ministres, dont le chef de la diplomatie. Au Nigeria, 16 personnes ont été tuées dans une mosquée par des hommes armés. En Iran, une cyberattaque inédite paralyse la distribution de carburant à travers le pays. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Des Soudanais en colère continuent de protester contre le coup d'État militaire, largement condamné au niveau international. Le général aux commandes du pays s'est exprimé publiquement sur le push aujourd'hui. Le point avec Jacques Aristide.
Sous le feu des critiques, le général Abdel Fattah al-Burhan explique avoir dissous toutes les autorités de transition car certains attaquaient l'armée. Il indique également que le premier ministre Abdallah Hamdok, dont la communauté internationale réclame la libération depuis son arrestation hier, a été mis à l'abri et rentrera chez lui quand la crise sera finie. Abdallah Hamdok est chez moi, ajoute le chef de l'armée. C'était lors d'une conférence de presse de près d'une heure en forme de monologue. Les routes et les ponts des villes comme Khartoum et Omdurman sont barricadés, soit par les militaires, soit par les manifestants qui exigent que le gouvernement civil soit réinstallé. Les ambassadeurs du Soudan en France, en Belgique, en Suisse et Noureddin Nassati, ambassadeur du Soudan, ici même à Washington, ont fait défection et disent soutenir la cause du peuple soudanais. Washington a déjà suspendu une aide de 700 millions de dollars au Soudan pour la Troïka, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Norvège. Les actions des militaires trahissent la révolution et la transition post-dictature après la chute en 2019 d'Omar el-Béchir. Le Conseil de sécurité de l'ONU tient cet après-midi une réunion d'urgence à huis clos.
Nous aurons comme invité en exclusivité dans la partie magazine l'ambassadeur du Soudan aux États-Unis. Cela dit, tous les vols vers et depuis l'aéroport de Khartoum ont été suspendus jusqu'au 30 octobre, a indiqué ce mardi Ibrahim Adlan, directeur de l'aviation. L'aéroport situé en plein centre-ville de Khartoum, où manifestants et soldats bloquent l'ensemble des routes avec des pierres, des branchages et des pneus brûlés, est uniquement séparé par un grillage des principales avenues de la capitale soudanaise. Les autorités ougandaises ont attribué mardi aux rebelles des forces démocratiques alliées les récents attentats à la bombe à Kampala et Lungala, dont le premier a été revendiqué par le groupe État islamique. Les enquêteurs ont établi des liens entre les ADF et les explosions dans un bus lundi près de Kampala et dans un café de la capitale ougandaise samedi. L'explosion qui a fait un mort et plusieurs blessés à bord d'un bus lundi soir à Lungala sur la route menant vers la RDC est le résultat d'une attaque suicide, a annoncé mardi la police ougandaise. Au moins 3 soldats burkinabés ont été tués et 7 blessés lors d'une attaque contre une unité militaire dans le sud-ouest du pays, près de la frontière ivoirienne. Cette région est le théâtre d'attaques régulières de djihadistes présumés. Il y a une semaine, un gendarme avait été blessé et un assaillant tué dans une attaque près de Téini, côté ivoirien. En Guinée, le gouvernement du colonel Mamadi Doumbouya s'élargit avec la nomination de 4 nouveaux ministres, dont celui des Affaires étrangères. Seuls 7 portefeuilles ministériels ont jusque-là été pourvus. Le point avec Abdourahmane Dia.
Maurice Anda Kouyaté, nouveau chef de la diplomatie guinéenne, était auparavant le directeur exécutif du comité interafricain sur les pratiques traditionnelles. Médecin de formation, il a reçu en 2020 le prix Nelson Mandela de l'ONU pour son engagement contre les mutilations génitales féminines. M. Kouyaté sera aussi en charge de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger. Julien Yombouno a été nommé ministre du Travail et de la fonction publique. Mamadou Paté Diallo devient, quant à lui, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et Charlotte Daffé, ministre de la Pêche et de l'Économie maritime. Déjà, 2 militaires ont été choisis comme ministres délégués en charge respectivement de la Défense nationale et de la Sécurité. Une femme a été nommée au ministère de l'Environnement. Le colonel Doumbouya, qui a renversé le 5 septembre l'ancien président Alpha Condé, a nommé le 6 octobre en premier ministre de transition en la personne personne de Mohamed Béavogui, un expert des questions de développement.
Le procès devant la justice finlandaise de Djibril Massakoi, un ancien chef rebelle sierra-léonais pour des crimes commis au Libéria pendant la guerre civile, a repris ce mardi. Des audiences se sont déjà tenues au Libéria en septembre et en octobre. La justice finlandaise, elle, devrait entendre de nouveaux témoins au cours des prochains deux mois. Le verdict étant attendu en 2022. Au Nigeria, des hommes armés ont abattu lundi 16 personnes pendant leur prière à l'intérieur d'une mosquée dans le centre-ouest du pays. Les précisions de John Lindon.
Lundi à l'aube, des dizaines d'hommes armés se déplaçant en moto ont pris d'assaut le village de Mazakuka dans le district de Machegou de l'État du Niger. Ils ont ouvert le feu dans une mosquée pendant la prière du matin, tuant 16 fidèles selon un responsable du gouvernement local. Une enquête est en cours pour déterminer le mobile de cette attaque. Des policiers et militaires ont été envoyés sur place selon une source proche des autorités locales. Le centre et le nord-ouest du Nigeria sont depuis plusieurs années le théâtre de violences perpétrées par des groupes armés appelés localement bandits. Ils attaquent souvent des villages, mais très rarement des lieux de culte. Selon l'UNICEF, ils ont pris pour cible cette année des écoles et des universités et ont enlevé plus de 1400 élèves et exigent des rançons pour leur libération.
Un tribunal sud-africain a rejeté mardi une demande de l'ancien président Jacob Zuma qui souhaitait que le procureur général soit dessaisi de son procès pour corruption lié à une affaire d'achat d'armes en 1999 auprès de 5 entreprises européennes. M. Zuma avait demandé à ce que ce procureur, Billy Downer, soit dessaisi du dossier, accusant le procureur d'avoir fait fuiter son dossier médical auprès des médias. Le tribunal ne l'a pas suivi. Ce procès reprendra le 11 avril 2022. Le représentant de l'ONU en Somalie s'est dit alarmé aujourd'hui par la situation dans l'état du Galmadoug, où des combats entre forces pro-gouvernementales et une milice soufie ont déplacé environ 100 000 civils. Les forces pro-gouvernementales ont annoncé samedi avoir repris la ville de Gouricel, dont les rebelles s'étaient emparés en septembre. Les combats ont fait au moins 12 morts, ont indiqué samedi des responsables sécuritaires et des témoins. Les États-Unis et l'ONU ont imposé des sanctions à un Libyen accusé d'abus horribles contre des migrants africains dans un centre de détention en Libye. Osama Al-Kouni Ibrahim est le dirigeant de facto d'un centre de détention de migrants à Zawiya en Libye, où lieu des personnes sous sa direction ont perpétré des abus horribles contre les migrants, dont des meurtres, des violences sexuelles et des coups et blessures, a déclaré mardi le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken dans un communiqué appelant les autorités libyennes à lui faire rendre des comptes. L'ONU l'avait ajouté lundi à sa liste de sanctions. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a annoncé lundi la levée de l'état d'urgence en vigueur de manière ininterrompue depuis 4 ans et demi dans son pays. Le dirigeant égyptien qui a fait cette annonce sur sa page Facebook avait imposé l'état d'urgence en avril 2017. Cette mesure a été reconduite tous les 3 mois depuis cette date.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Iran, une cyberattaque a provoqué une panne générale de distribution de carburant, rapporte la télévision d'État. La chaîne nationale a montré des stations d'essence fermées devant lesquelles s'allongent des files d'attente. Nathalie Barrage.
Le Conseil suprême de la sécurité nationale a confirmé qu'il s'agissait d'une cyberattaque contre le système informatique de distribution du carburant, a rapporté la télévision d'État, précisant qu'une enquête était en cours. La porte-parole de la Société nationale iranienne de distribution des produits pétroliers, Fatemeh Kahi, a annoncé la tenue d'une réunion d'urgence pour résoudre le problème. À Téhéran, les techniciens du ministère du Pétrole ont mis hors ligne le système informatique de quelques stations-service pour distribuer le carburant manuellement. L'agence de presse Fars a lié cette panne à l'anniversaire du 15 novembre 2019, date à laquelle des manifestations avaient éclaté après l'annonce d'une hausse du prix de l'essence. Le ministre de l'Intérieur, Ahmad Vaidi, a déclaré que le gouvernement n'a pas prévu d'augmenter les prix à la pompe.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden est en campagne ce mardi pour le candidat démocrate au poste de gouverneur de Virginie, un État décisif et une élection qui a valeur de test pour le président. À quelques jours du scrutin prévu le 2 novembre, le président des États-Unis doit s'exprimer dans la soirée à Arlington aux côtés de Terry McAuliffe, 64 ans, ancien gouverneur de la Virginie, qui veut en reprendre les rênes. Les sondages le donnent au coude à coude avec le républicain Glenn Youngkin, âgé de 54 ans. Voilà pour le journal, vous écoutez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg.
Une croissance de 10,8% en 2023 pour le Sénégal, c'est ce que prévoit le FMI dans son dernier rapport de perspective économique. Sur le continent, le Sénégal se place dans le trio de tête des économies avec le plus important taux de croissance, derrière le Mozambique avec 12,6% et devant le Niger avec 10,4%. Le gouvernement mauricien a lancé de nouveaux programmes d'énergie renouvelable pour réduire sa dépendance aux combustibles fossiles et diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030. Avec un taux d'électrification à 99,6% selon Ecofine, l'île Maurice aborde le virage de la transition énergétique. L'objectif est de produire 60% de ses besoins énergétiques à partir de sources vertes d'ici 2030. En 2020, 76,1% de l'électricité mauricienne était produite à partir de sources non renouvelables. Le vice-premier ministre chinois Liu He, qui supervise les questions économiques, s'est entretenu ce mardi avec Janet Yellen, son homologue américaine, au moment où Chine et États-Unis tentent de reprendre le dialogue sur leurs différends commerciaux.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. On connaît les oppositions de l'ultime étape avant la phase de poule de la Coupe de la CAF. La Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort du tour de cadrage ce mardi, après son élimination surprise en Ligue des Champions par les Sud-Africains d'AmaZulu, et donc reversé en Coupe CAF, le tout-puissant Mazembe fera encore face à un autre club sud-africain, Marumo Gallants FC. Les autres Congolais de l'AS Maniema Union héritent des Égyptiens du FC Pyramide. Le DC Mutoma Pembe se frottera à l'US Gendarmerie Nationale du Niger. Les Ivoiriens de l'ASEC Mimosa croisent les Angolais du GD Interclub. À suivre aussi, Coton Sport de Garoua, FC Noir Dibou de la Mauritanie. Le stade malien devra attendre que la CAF décide de l'issue du match Al Ahly Tripoli, Biashara United, pour connaître son adversaire. Les Marocains de la Renaissance Sportive de Berkane jouent les Rwandais d'APR FC. Les matchs allés sont prévus pour le 28 novembre et ce retour le 5 décembre. Les 16 qualifiés joueront la phase de groupe de la Coupe CAF. L'attaquant nigérian de Naples, Victor Osimhen, a été la cible de cris racistes venus du public pendant le match contre l'AS Rome 0-0 dimanche au Stadio Olimpico, indique la Ligue italienne en annonçant des investigations selon le communiqué de l'instance dirigeante du foot italien en relation avec les chants discriminatoires de nature raciale visant le joueur Victor Osimhen. Le juge sportif de la Ligue a décidé un supplément d'enquête confié au procureur de la fédération pour spécifier dans le détail la durée et l'ampleur de ces cris. Le FC Barcelone et Boca Juniors disputeront un match amical en hommage à Diego Maradona le 14 décembre en Arabie Saoudite, a annoncé le club argentin dans un communiqué. Le match pour la Coupe Maradona se déroulera à Riyad. L'annonce d'un tel événement est faite alors que le PIB de Oro aurait eu 61 ans le 30 octobre. Le numéro 10 argentin a porté le maillot de Boca Juniors à deux reprises, d'abord lors de la saison 1981-1982, puis en 1995 pour ses deux dernières saisons professionnelles. Maradona a aussi évolué sous les couleurs blaugrana pendant deux saisons, entre 1982 et 1984, y jouant 58 matchs et remportant une Copa del Rey. Diego Maradona, champion du monde en 1986, est mort d'une crise cardiaque le 25 novembre 2020. Il avait 60 ans. NBA, avec 41 points de leur star Jason Tatum, les Boston Celtics ont infligé à Charlotte sa première défaite de la saison à NBA 140-129, tandis que Milwaukee est allé s'imposer 119-109 sur le parquet d'Indiana. Les Bulls se sont fait peur, mais ont tenu bon à Toronto face à la remontée des Raptors pour s'imposer 111-108 et rester en tête à l'Est. C'est la première fois que Chicago entame la saison avec 4 victoires consécutives depuis la saison 1996-1997, à la grande époque de Michael Jordan. Les Nets de Brooklyn l'ont emporté 104-90 contre Washington.
Page des sports, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Après le coup de force au Soudan, les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU doivent se réunir en urgence aujourd'hui à huis clos. 3 ambassadeurs soudanais en Europe ont annoncé leur défection, condamnant le coup d'État. Les ambassades du Soudan en France, en Belgique et en Suisse disent soutenir le peuple soudanais dans sa lutte. Abdourahman Dia a recueilli la réaction de Nour el-Din Sati, ambassadeur soudanais ici même à Washington.
Moi, j'ai décidé de condamner parce que je suis l'ambassadeur qui a été nommé par la composante civile. J'appartiens aux forces donc de la révolution civile et j'adhère aux principes démocratiques. Et je ne vois pas de raison pour qu'un coup d'État soit donc mené à ce moment critique de l'histoire du Soudan, où il y a eu vraiment une grande révolution soudanaise qui aspirait vers la liberté, la justice, la démocratie et les droits de l'homme.
D'autres ambassadeurs en Europe ont aussi condamné le coup. Les diplomates soudanais à l'étranger comptent-ils mener une action concertée pour mettre la pression sur les militaires?
Oui, il y a quelques minutes, je parlais avec mes collègues dans les capitales européennes. Et il y a aussi d'autres qui sont de capitales asiatiques et africaines. Et nous sommes en train de nous concerter sur l'action à mener. Pour faire face, disons, à ce coup de force.
Alors, les États-Unis ont suspendu leur aide de 700 millions de dollars après le coup au Soudan. Qu'attendez-vous de la communauté internationale?
Ce que nous attendons de la communauté internationale, c'est de nous appuyer pour mettre la pression sur les putschistes au Soudan, pour qu'ils acceptent de ramener les choses aux conditions où ils étaient donc il y a 48 heures, libérer donc le premier ministre Abdallah Hamdouk et les ministres qui ont été incarcérés et leur permettre de faire leur travail et de engager le dialogue au sein des institutions pour trouver des solutions aux problèmes que confronte la transition au Soudan. Un coup de force ne peut pas résoudre ces problèmes. Elle ne peut que compliquer les choses.
Alors, vous avez des nouvelles du Premier ministre Hamdouk et des autres personnes détenues et leurs conditions de détention?
Non, je n'ai pas de nouvelles. En ce qui concerne le Premier ministre, Monsieur le Général Burhan a dit ce matin à la télévision soudanaise qu'il est l'invité, il est chez lui, il le garde chez lui pour le protéger. Contre des supposées menaces. Et nous, nous ne savons pas quelles sont menaces, que ces menaces. Les menaces viennent plutôt des forces armées, beaucoup plus que de la population. Et alors, s'il voulait le protéger, il n'avait qu'à le laisser chez lui et prendre des mesures de protection là où il est.
Nour el-Din Sati, ambassadeur du Soudan aux États-Unis. Les autorités de la transition malienne ont désigné lundi le représentant spécial de la CEDEAO, le professeur Amidou Boly, comme persona non grata. Il lui a été demandé de quitter le pays dans les 72 heures, une décision qui intervient après la double visite du président en exercice de la CEDEAO, le Ghanéen Nana Akufo-Addo, et de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko, nous en dit plus.
Persona non grata, c'est l'expression en vogue dans le groupe de discussion à Bamako depuis 48 heures. À la manchette des journaux de ce mardi matin, elle ravit la vedette aux autres. Et pour cause, le représentant spécial de la CEDEAO au Mali, depuis 2019, le professeur Amidou Boly a été désigné persona non grata par les autorités de la transition hier lundi et sommé de quitter le pays dans 72 heures. Une décision apprécié par certains citoyens.
Moi, à mon avis, bon, c'est là où, moi, je veux que c'est là où on a quitté au Mali. C'est ça que moi, je veux passer. Bon, on a toujours eu des problèmes là-bas. Bon, chaque fois, c'est là où je viens nous parler les choses que Mali même n'a pas passé. Donc, je sens que mon avis, c'est une bonne décision.
Je pense que c'est une décision conséquente. Parce que je vous rappelle que le Mali fait partie des frères fondateurs de la CEDEAO. Donc, à cet effet, la CEDEAO nous doit un certain respect et considération, ne serait-ce que pour notre souveraineté. Donc, pour cela, je juge la décision du ministre des Affaires étrangères à l'UJOP, la décision légale et légitime.
Directeur de publication du journal Le Héron, Fassini Ouattara se replonge dans la lecture du livre « L'os de la parole » de Adama Konaré, ancienne première dame du Mali. Selon lui, la décision des autorités est tout simplement malheureuse.
Je pense que c'est une décision qui est malheureuse parce que, compte tenu de la situation actuelle de notre pays, vous savez que c'est la communauté internationale qui s'est mobilisée au chevet de notre pays. À travers la CEDEAO, il y a l'Union africaine, il y a la France, il y a les États-Unis d'Amérique, etc., etc. Donc, ils se sont mobilisés au chevet de notre pays parce que notre pays se trouve aujourd'hui dans une situation très, très inconfortable.
Pour certains, des diplomates méritent sa sanction pour avoir été averti à plusieurs reprises, comme l'a affirmé le ministre des Affaires étrangères dans son interview au micro de la télévision nationale, Amadou Diallo.
Il aurait dû faire extrêmement attention à ce qu'il dit et à ce qu'il fait, parce que c'est un diplomate n'est pas comme n'importe qui, n'est pas n'importe quel citoyen dans un pays. Ses faits et gestes sont surveillés et contrôlés. Et surtout que le ministre des Affaires étrangères, dans une interview diffusée sur la télévision nationale, il a dit qu'il avait été averti plusieurs fois de rester dans son carcan de diplomate. Mais malheureusement qu'il est sorti de ce contour-là et s'immiscer dans la vie politique.
Le Mali s'est dû prêt à accueillir le plus tôt possible un autre représentant spécial de l'institution sous-régionale sur son territoire. Mohamed Danyoko, VOA, Bamako.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Au Burkina Faso, le procès des assassins présumés de l'ancien président Thomas Sankara a repris lundi à Ouagadougou. Après deux semaines de suspension, 12 des 14 accusés sont présents. Par contre, l'ancien adjudant-chef Hyacinthe Kafando, soupçonné d'être le chef du commando qui a assassiné Thomas Sankara, et 12 de ses compagnons et l'ancien président Blaise Compaoré ne sont pas présents. Les avocats de ce dernier ont dénoncé un simulacre de procès devant un tribunal d'exception. Yacouba Ouédraogo a joint l'un d'eux à Dakar, Maître Olivier Sur.
Cette procédure qui doit compter des milliers de pages, eh bien, ne m'a pas été notifiée. J'ai pas reçu la copie du dossier. J'ai pas reçu la notification des charges. J'ai pas reçu les expertises. J'ai rien reçu. Comment voulez-vous, par conséquent, moi qui suis son avocat avec Maître Abdoul Ouédraogo au Burkina, comment voulez-vous que nous puissions faire notre métier dans de bonnes conditions? Et si nous ne pouvons pas faire notre métier dans de bonnes conditions, il n'est pas question que notre client, l'ancien président Blaise Compaoré, eh bien, se retrouve sur le banc des prévenus sans avoir les garanties d'un procès équitable.
Est-ce que vous avez demandé justement tout ce que vous citez?
Ce n'est pas à moi de demander, c'est à eux de me notifier. Il fallait qu'on nous notifie la mise en examen, il fallait qu'on nous notifie les charges, il fallait qu'on nous invite à pouvoir déposer en tant que témoin ou bien en tant que mis en examen ou inculpé pendant le temps de l'instruction. Nous n'avons rien reçu, silence radio absolu, de la part de la juridiction d'instruction à Ouagadougou ou bien du tribunal militaire.
Vous dénoncez également un procès inique, vous l'avez dit, devant un tribunal exceptionnel. Le tribunal militaire existe bien dans l'ordre judiciaire du Burkina.
Oui, le tribunal militaire existe, mais le tribunal, pour qu'il s'appelle tribunal avant de s'appeler militaire, doit respecter un certain nombre de règles. Ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, la difficulté de ce tribunal à se constituer a été suffisamment criante le premier jour du procès, puisque un certain nombre de hauts gradés ont refusé d'y participer.
Oui, mais maître, ils se sont refusés, l'un disant qu'il a eu des relations personnelles avec l'un des accusés, le général Gilbert Dindiri. Cela se justifie aussi, en droit.
Oui, oui, ça se justifie. Ce qui ne se justifie pas, c'est qu'ils se soient tous récusés. On n'a pas trouvé un général, on n'a pas trouvé un colonel, on n'a pas trouvé un lieutenant-colonel, on n'a pas trouvé un commandant. Enfin, il a fallu tomber au grade de, tout à fait respectable, mais subalterne tout de même, de capitaine.
Blaise Compaoré sera tout de même jugé par contumace, ce qui veut dire qu'il n'aura pas l'occasion de se défendre.
Oui, mais nous ne reconnaissons pas ce jugement comme ressortant d'un procès et d'une procédure équitable. Vous comprenez bien qu'il s'agit en réalité de gesticulations pour donner à l'État le gage de faire semblant d'organiser un procès face à l'histoire. Mais il n'y a pas de procès sans débat contradictoire. Et dès lors qu'il n'y a pas de débat contradictoire, personne ne reconnaîtra ce procès. D'ailleurs, la Cour de Strasbourg ne reconnaît pas la justice burkinabé aujourd'hui. C'est quand même très signifiant. La Cour de Strasbourg a refusé l'extradition de François Compaoré. Donc la Cour de Strasbourg a fortiori vient bien dire que la justice du Burkina n'est pas en mesure de juger selon les règles du procès équitable. Et ça nous suffit pour déconsidérer ab initio la procédure telle qu'elle est menée en ce moment.
C'était Maître Olivier Sue, l'avocat de l'ancien président burkinabé, Blaise Compaoré, joint à Dakar.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Sénégal, un immeuble s'est effondré à Dakar il y a 3 semaines, faisant 6 morts, dont 2 enfants de bas âge. Une énième catastrophe qui a poussé le ministre de l'Urbanisme et du Logement à faire l'inventaire de 1400 bâtiments et a remis en selle l'inspection générale des bâtiments pour des contrôles plus accrus. Ces mesures ne règlent pas le problème d'après les Sénégalais. Les précisions de notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Habiter dans une maison en état de délabrement avancé est souvent un choix par défaut. Abdoukhadr Diop en est convaincu. Selon lui, les mesures prises par l'État ne seront pas suffisantes car les moyens ne sont pas toujours réunis pour vivre dans de meilleures conditions.
Quand tu es né dans une maison et que tu y as grandi et que tu y vis jusqu'à présent, c'est normal qu'elle prenne de l'âge, surtout si elle n'est pas rénovée en partie intégralement. Mais il faut dire que cela aussi est une question de moyens. On peut avoir la volonté de le faire, mais dans ce pays, on est beaucoup plus occupé à trouver de quoi vivre. On est conscient du danger, mais il faut aussi savoir que la vie n'est pas facile et que la majorité des gens qui habitent dans les bâtiments en état de délabrement avancé n'ont pas les moyens de vivre correctement.
Au Papa Moussa Sow, c'est plus une question de responsabilité. Il avoue que la vie est certes dure, mais ce n'est pas une raison pour faire preuve d'insouciance et d'inconscience.
Il faudrait que dès lors que je prends l'engagement d'habiter dans une maison, que je vois si elle obéit à toutes les normes de sécurité imposées par l'urbanisme. Vu ce qui s'est passé, ça nous a servi d'exemple. La maison qui s'est effondrée, qui a causé pas mal de morts, pas mal de pertes de vies humaines qu'on pouvait bien, bel et bien éviter. Il y a des bâtiments dans lesquels, quand tu passes, toi, dans ta tête, tu te dis que ces bâtiments-là, ils ne vont pas tenir longtemps.
Pour Mbaye Makemeng, un jeune entrepreneur, le danger vient des autorités et des individus qui préfèrent économiser de l'argent plutôt que d'investir dans la construction de bâtiments aux normes.
Du fait, parce que bon, au Sénégal, nous savons que la plupart des entrepreneurs veulent louer leur maison sans dépenser autant de moyens, c'est-à-dire une quantité maximum de ciment, de fer, tout ça, pour pouvoir mieux consolider les bâtiments, tout ça. Bon, il y a aussi la responsabilité de ceux qui louent, les bailleurs et de l'État aussi.
Pour remédier à cette situation et éliminer ces failles, les autorités annoncent le renforcement du pouvoir et des moyens de l'inspection générale des bâtiments. Cette dernière aura désormais les coups de franche pour mener toute action qu'elle jugera nécessaire pour faire respecter les normes de construction et préserver le cadre de vie. Seydina Abagay, Dakar, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Billon à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.